Apocalypse 3, verset 14. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Nous avons entendu tout à l'heure que Philadelphie a été comparée à une oasis entre deux déserts. Désert du formalisme et ses sardes, tu as nom de vivre et tu es mort. L'autre désert dans lequel, on peut dire, nous entrons maintenant, c'est celui de l'autosuffisance, du contentement de soi. Et c'est Laodicée. Mais le Seigneur nous a donné ce tableau précieux et encourageant, nous invitant à nous en rapprocher, à réaliser les caractères qui sont ceux de Philadelphie. Nous ne prétendons pas être Philadelphie, ça a souvent été dit, mais que le Seigneur nous accorde d'en rechercher les caractères, c'est-à-dire avant tout l'attachement à sa parole, à sa personne, l'attente de son retour et la fidélité à ce que nous avons reçu et entendu. Alors après ces promesses aux vainqueurs qui nous ont été détaillées, eh bien il y a l'avertissement, chaque fois répété, que celui qui a des oreilles entende. Fassions partie de cela. Nous entendions, nous écoutions ce que l'Esprit dit aux assemblées. Nous arrivons donc à la dernière église, celle de Laodicée, dont tout montre aujourd'hui les caractères. Peut-être pour les plus âgés d'entre nous, pouvions dire, notre jeunesse, on ne les discernait pas spécialement. Où est Laodicée? Quelle différence? Il y a le catholicisme représenté par Thyatire, il y a Sardes, protestantisme, et puis il y a des milieux qui se rapprochent, auxquels on peut identifier plus ou moins Philadelphie, quand c'est vraiment la recherche de la présence du Seigneur et l'attachement à sa parole, Laodicée. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, Laodicée se reconnaît dans des milieux qui ont été enseignés, dans des milieux qui sortent de Sardes et de Philadelphie. On voit cette satisfaction de ce qu'on a reçu. On ne manque de rien. On a la parole, on a beaucoup de choses. On ne manque pas de religion. Elle est là partout. Elle s'accommode bien avec le monde. C'est une partie de la vie sociale. Et puis, finalement, personne n'est vraiment concerné, interpellé. Mais, voilà. Le Seigneur donne son diagnostic fidèle. Et pour cela, il prend ce caractère. Nous avons verset 14. Il est l'Amen, c'est-à-dire celui qui a le dernier mot, celui qui seul peut donner ou refuser son approbation. Amen, c'est ce que le Seigneur faisait entendre quand il était sur la terre, en vérité, n'est-ce pas ? Amen, amen. Important de savoir ce que lui pense. Peut-il souscrire à un tel état de choses ? Nous voyons que non. Le témoin fidèle et véritable. Là où tout témoignage a pu manquer, lui reste le témoin fidèle, le témoin véritable. Et enfin, le commencement de la création de Dieu, parce que il faut toujours comparer l'état actuel des choses à ce que Dieu a donné au commencement. C'est ainsi que l'on peut mesurer un déclin, que l'on peut faire le contraste entre les choses telles qu'elles apparaissent et puis ce que Dieu a donné. Alors c'est ainsi que le Seigneur se présente. Et la Odyssée, on a dans le mot lui-même, de même que Philadelphie avait un sens très précieux, l'amour des frères ici, on a, paraît-il, dans ce mot, ce qui correspond à la démocratie religieuse, à la justice du peuple, c'est-à-dire un peuple qui s'organise lui-même, qui se dirige lui-même. On sait ce qu'est une démocratie. Alors finalement, on n'a pas besoin d'un chef, d'un maître. On s'arrange avec des moyens humains. Tout est là pour satisfaire l'orgueil et les convoitises des hommes. Voilà la Odyssée. Triste tableau. Et c'est cela que devient l'Église. Le Seigneur ne nous cache pas, nous fait en quelques versets un tableau tragique de ce que devient, de ce que peut devenir la chrétienté. Est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous assistons? Et nous avons là aussi à prendre pour nous les avertissements donnés à cette Église. Nous ne soyons pas, nous, de ceux qui nous glorifient de ce que nous avons reçu, satisfaits d'une certaine prospérité spirituelle. Voilà, nous connaissons bien la parole, nous avons des bibliothèques remplies, nous sommes enseignés, nous ne manquons de rien. Et voilà, c'est pas comme ces pauvres païens, nous sommes là au milieu même de la chrétienté, comme une sorte d'élite. Eh bien, le Seigneur dépouille cette prétention et la fait tomber là pour nous montrer le véritable état.
Avant d'entrer dans le sujet, petite remarque au sujet de l'apôtre dont il est dit le disciple que Jésus aimait. C'est un peu en dehors du sujet, mais je crois qu'on supportera au moins la remarque. Cet apôtre est donc l'auteur de l'Évangile dans la fin de sa vie, l'auteur de trois épîtres et aussi l'auteur de l'Apocalypse. Il a reçu ce nom du Seigneur. Alors, c'est un homme qui, au chapitre 5, a pleuré dans le ciel. C'est sans doute le seul. « Et moi, je pleurais fort, dit-il. » En rapport avec la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, la cité de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, si nous allons au chapitre 21e, il en a été fait allusion, et c'est là que je voudrais surtout relever deux détails. L'apôtre est conduit sur une haute montagne, et là, il voit la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et il voit sur cette milieu de toute cette gloire qui environne la Sainte Cité, il voit deux listes de noms. Le nom des 12 tribus d'Israël sur les portes. Les 12 tribus d'Israël apparaissent sur les portes. C'est déjà quelque chose qui est agréable à l'apôtre que Jésus aimait, de voir le nom des 12 tribus d'Israël. Et puis, il voit les fondements de la muraille. Et là, ah, voilà le nom de mon frère Jacques qui était mis à mort. Voilà le nom de Pierre. L'apôtre, puisqu'il est dit, au verset 14e, « Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. » Et Jean est sans doute le seul qui a vu son nom inscrit dans le ciel, sur un des fondements de la cité. Voilà mon nom. Combien ça a été agréable au vieil apôtre, près de s'en aller, de voir son nom inscrit sur un des fondements de la cité qui descendait du ciel comme une épouse ornée pour son mari. «
cette église de Laodicée présente des caractères bien solennels, on l'a déjà souligné, mais je dirais qu'on peut presque l'appeler le christianisme sans Christ. Ou bien, on pourrait presque l'appeler aussi l'anti-église. Je vais essayer de le développer, même si ce terme d'anti-église est tout à fait consacré à Babylone, bien sûr. Mais donc, cette église porte déjà des caractères qui sont anticipateurs de ce que Babylone portera dans la suite du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait digne de remarque. Nous remarquons que, autour de quoi sont-ils dans cette église ? De quoi sont-ils occupés ? Ils sont occupés d'eux-mêmes. Ils sont occupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur savoir, de leur faste, de leurs organisations. Ils sont occupés d'eux-mêmes. Ils ne sont pas occupés du Seigneur. Le Seigneur n'est pas au milieu. Premier caractère. Deuxième caractère, ils sont tièdes. Le propre d'un corps vivant, parce que l'Église doit représenter le corps de Christ, il doit y avoir cette vie dans ses membres. Une vie se manifeste par la chaleur, elle se manifeste aussi par la vue. Nous voyons qu'ils sont aveugles, ils n'ont pas cette vue spirituelle. Ils ne représentent pas le corps de Christ dans ce caractère organique que doit représenter l'Église, que doit représenter un rassemblement local. Troisième caractère, il n'y a pas d'affection. Tiède, c'est bien sûr, nous voyons bien d'après le contexte de ces versets, que c'est le manque d'affection. Est-ce qu'il est possible qu'un rassemblement local puisse être une véritable représentation de l'épouse de Christ, de la famille, n'est-ce pas, s'il n'y a pas cette affection ? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'affection entre vous. Quelle différence par rapport à Philadelphie ? Donc, pas cette deuxième dimension de l'assemblée ou de l'église, puisque nous savons que les deux termes, ce sont les mêmes termes sous des traductions, enfin, d'origine différente au point de vue langue. Et troisième point, Dieu n'est pas là. Christ n'est pas là. Il est à la porte. C'est une maison sans Christ, une maison sans Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce caractère de sainteté, ce caractère lié à la présence de Dieu au milieu d'elle. Combien cela est solennel. Et il est frappant de voir justement que face à ce déficit extraordinaire, Christ n'est pas là, alors qu'elle prétend être l'Église de Christ. Il est frappant de voir qu'en réponse à cela, nous avons le Seigneur qui se présente justement sous trois caractères liés à lui-même. Premier caractère, je suis l'Amen, c'est-à-dire celui qui a un rapport avec le futur et l'accomplissement de tout ce qui a été dit. L'accomplissement des promesses est lié au fait que Christ soit l'Amen. Ainsi sera-t-il de tout ce qui a été dit. Deuxième caractère, il est présenté comme le témoin fidèle. Oui, si l'Église est un témoin infidèle, et combien celle de Laodicée présente ce caractère de témoin infidèle, puisqu'elle ne représente pas, c'est presque l'anti-Église. Combien il est important. Christ dit, je relèverai ce défi. Moi, je suis le témoin fidèle. Voilà la réponse pour le présent, et même pour le passé. Il est le commencement de la création de Dieu. Oui, cette Église dont on vient de dire qu'elle se satisfait des moyens humains et elle met que cela en avant, nous voyons bien d'après le contexte, eh bien, Christ se présente comme celui qui est le commencement, celui qui a créé cette nouvelle création où tout est de Dieu, où l'énergie, les relations, les affections, tout est de Dieu. Je fais référence là au paragraphe correspondant de 2 Corinthiens 5. Eh bien, pour tout ce qui concerne la vie, il est là, le commencement de cette création. Deuxième caractère de cette Église, c'est la ruine. C'est la ruine. Il n'y a pas d'engagement. Tiède, pas d'engagement. La ruine. Il n'y a pas d'engagement des représentants de cette Église. Nous n'osons pas dire des croyants. Il y en a certainement, puisqu'on voit que le Seigneur frappe à la porte et qu'il y a des réponses. Il y a probablement quelques croyants, mais pas d'engagement. Deuxièmement, aucune approbation. Cela est frappant. Aucune approbation du Seigneur dans cette Église. Elle est promise à un jugement. Je vais te vomir. C'est la seule qui soit promise à un tel jugement aussi certain. Pas de repentance possible. Pas de ressources à l'intérieur. Sinon, les ressources humaines dont on voit qu'elles ne valent rien, qu'elles n'apportent rien. Et pas, surtout, c'est peut-être le plus grave, fondamentalement, pas de jugement de soi-même. On ne s'aperçoit pas de son état. Cela nous fait penser à ce verset si frappant, « Des cheveux gris sont parsemés sur sa tête et il ne le sait pas. » Quand on ne connaît pas son état, quelles ressources y a-t-il ? On n'a même pas le désir de se tourner vers le Seigneur pour qu'il réponde. On n'a pas de miroir où se regarder, on ne sait pas ce qu'on est. Quel triste état!
Et la cinquième fois que le Seigneur dit « Je connais tes œuvres ». Effectivement, pour Smyrne, il a dit « Je connais ta tribulation ». Pour Pergame, « Je sais où tu habites ». Là, « Je connais tes œuvres ». Et il va démontrer, il va éclairer, il va montrer à Laodicée ce qu'elle est. Tu n'es ni froid ni bouillant. Laodicée est indifférente quant à Christ. Et est-ce que le Seigneur est indifférent à cet état-là? Il n'est pas indifférent à cela. Puisque tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. C'est un état qu'il ne peut pas supporter. Mais de notre côté, est-ce que il ne va pas avertir? Il avertit pour que il y ait dans cet état misérable des âmes qui écoutent et qui se tournent et qu'il y ait des vainqueurs. Est-ce que il avait déjà averti Laodicée? Certainement, beaucoup d'entre nous savons que l'Épître aux Colossiens a été écrite aux Colossiens, et à la fin de l'Épître, il est dit, à la fin de l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 16, « Quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodicéens, et vous aussi lisez celle qui viendra de Laodicée. » Donc ils avaient lu, il y avait eu dans cette assemblée de Laodicée la lettre aux Colossiens qui avait été lue. Et qu'est-ce qu'il était dit dans cette lettre aux Colossiens? Le Seigneur est présenté, il est présenté comme celui qui est le premier-né de toute la création, celui qui est à l'origine de la création sur la terre, la création visible. Ici, il est le premier-né de la création de Dieu, la nouvelle création. Il est présenté comme le premier-né d'entre les morts, celui qui en toute chose doit tenir la première place. Et eux, le Seigneur n'avait plus de place chez eux. Il était dehors. Et puis, il disait « Je suis riche, je me suis enrichi ». Ils étaient occupés d'eux-mêmes, satisfaits d'eux-mêmes, croyant avoir la source de leur richesse en eux-mêmes. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils avaient pu lire dans l'Épître aux Colossiens quand nous lisons au chapitre 1er, au verset 26, quand Paul leur parle du mystère qui avait été caché dès les siècles, dès les générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints, auquel Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les nations, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quelle espérance y a-t-il? Quelle gloire y a-t-il devant eux? Rien. Est-ce que Christ est en eux l'espérance de la gloire? Non. Il est à la porte, il est dehors. Quelles richesses ont-ils? Aucune richesse. Est-ce que c'est ces richesses de la gloire de ce mystère? Non. Et plus loin, au chapitre 2, l'apôtre Paul avait déjà un combat pour les Laodicéens. Je veux que vous sachiez quel combat j'ai pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée, tous ceux qui n'ont point vu mon visage en l'enchère, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour, et pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence pour la connaissance du mystère de Dieu. Un combat, des richesses annoncées, la pleine certitude du mystère de Dieu, dans lesquelles sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Des richesses, des trésors, une connaissance, une sagesse. Ils disent « Je suis riche ». Je n'ai besoin de rien. Et ils disent cela, et il leur avait été question d'avoir ces richesses de la connaissance, et le résultat chez eux, tu ne connais pas que tu es le malheureux, le misérable, pauvre, aveugle et nu. Aveugle, ils n'avaient rien, ils ne voyaient rien, ils étaient complètement aveugles alors que leurs yeux avaient été éclairés dans l'Épître aux Colossiens. Ils étaient nus, alors que dans l'Épître aux Colossiens, ils avaient été exhortés à revêtir Christ. Ils étaient nus, ils n'avaient rien. Et le point de départ, Le point de départ, c'est la tiédeur, c'est l'indifférence. Une tiédeur et une indifférence qui peut nous gagner. Il y a une chose terrible, c'est de prendre l'habitude d'écouter la parole de Dieu sans se placer dans la lumière de Dieu. Et pour cela, pour la plupart d'entre nous, je crois, en tout cas pour chacun d'entre nous, à partir de peut-être de peu d'années pour certains, nous avons de multiples occasions d'être devant la parole de Dieu. Soit personnellement, soit en famille, soit dans des réunions de l'Assemblée, soit dans des réunions comme aujourd'hui. Comment la recevons-nous? Est-ce que cette parole est vraiment pour nous la parole de Dieu? Quand nous entendons parler des souffrances du Seigneur, est-ce que nous passons là indifférents? Est-ce que c'est quelque chose dont on a tellement entendu parler que ça nous laisse tiède? Comme si la grâce de Dieu qui venait vers nous, c'était quelque chose de normal. L'amour de Dieu pour des hommes, des pécheurs comme nous, est-ce que cela est normal? Est-ce que c'est normal qu'il n'ait pas épargné son propre fils, mais qu'il ait livré pour nous tous? Est-ce que c'est normal que le Seigneur Jésus soit venu sur la terre, qu'il ait marché sur cette terre, qu'il soit allé de lieu en lieu faisant du bien, qu'il soit allé jusqu'à la mort de la croix? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que cela nous laisse indifférents? Est-ce que nous passerions là, devant la croix de notre Seigneur, sans être saisis dans nos cœurs? Est-ce que nous serions tièdes devant son amour? Est-ce que nous serions ni froids, ni bouillants, indifférents? Ce ne serait pas possible. Que le Seigneur fasse que jamais, jamais nous nous habituions à ces choses. Que aucun d'entre nous ne devienne imperméable à l'amour du Seigneur. Quand nous écoutons la parole, souvent nous amenons nos enfants très jeunes à la réunion et c'est une très bonne chose. Nous leur parlons de la présence du Seigneur, mais est-ce que je me permets de parler aux petits ici qui sont là, les plus jeunes? Écoute, quand tu viens, bien sûr il y a des choses difficiles dans ce que tu peux entendre, hein. Bien sûr c'est un peu long, c'est même très long une réunion, mais quand tu viens, ne prends pas l'habitude de ne pas écouter, parce que tu vas grandir et puis tu auras pris ce réflexe de ne pas écouter. Tu viens t'asseoir à côté de tes parents à la réunion et tu n'écoutes pas. Et les années passent, tu peux devenir complètement indifférent. À la sortie de la réunion, un frère va te dire « Que faut-il faire pour être sauvé ?» Et comme on te l'a appris, tu diras « Il faut croire au Seigneur Jésus. » Mais est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus? Quand le dimanche matin, nous sommes là, nous chantons les louanges du Seigneur et nous allons rompre le pain, nous allons nous souvenir de lui. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu es tellement habitué que cela ne te touche plus, ce souvenir de la mort du Seigneur? Et pour nous qui rompons le pain, pour nous qui buvons à la coupe, est-ce que cela ne devrait pas être chaque fois comme quelque chose de tout nouveau? Notre Seigneur est mort pour nous. Notre Seigneur nous aime. Et la preuve qu'il nous aime, la preuve qu'il aime ceux qui sont aussi dans cet état de la Odyssée, c'est que il vient vers eux, il leur dit « Je connais comment tu es » et il leur dit « Je ne peux pas supporter cet état-là » et il ne désire pas aller vomir de sa bouche, mais il désire qu'ils ouvrent la porte, il désire entrer chez eux.
Je n'ai besoin de rien. Ce n'est pas réflexion qu'on entend souvent dans le monde. Au contraire, nous sommes dans un monde de contestation, de réclamation. Personne n'est satisfait de son sort, on veut toujours plus, on veut ce qu'a le voisin. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend généralement. Mais on l'entend à la Odyssée. Et cela parce qu'il s'agit du domaine spirituel. Et qu'on est là, on se suffit à soi-même. Je n'ai besoin de rien. Et toujours pour en faire l'application à nous. Est-ce que quand, au fond, qu'est-ce que nous venons faire aux réunions? La réunion de culte, nous venons apporter. Les autres réunions, comme celle que nous avons aujourd'hui, nous venons recevoir. La réunion de prière, on vient demander. Et négliger de telles réunions, négliger la réunion de prière, par exemple, est-ce que ce n'est pas dire au Seigneur, « Seigneur, je n'ai besoin de rien. Pourquoi venir me mettre à genoux avec mes frères ?» Finalement, qu'est-ce que je pourrais demander ? Je ne manque de rien. Et la négligence des réunions de prière nous semble assez symptomatique de cet état de Laodicée. Quand nos réunions de prière sont vides de la moitié des frères et sœurs qui sont là le dimanche matin. « Je n'ai besoin de rien, Seigneur. Je viendrai t'apporter quand même dimanche parce que c'est l'habitude. Mais qu'est-ce que je viendrai te demander ?» Et la réunion d'étude de la parole, la réunion où la parole est présente et méditée, peut-être que nous n'avons pas beaucoup de dons dans l'assemblée locale et que ce sera ce même frère qui va de nouveau se lever et puis on sait bien ce qu'il va nous dire et puis il exhorte toujours et puis c'est toujours la même chose. Alors, je n'ai besoin de rien, mais la parole est lue. C'est Dieu qui nous parle à travers elle. Et alors c'est dire à Dieu lui-même, pas à ce frère qui fait comme il peut, comme il a reçu, mais dire au Seigneur lui-même, « Seigneur, qu'est-ce que je viendrai faire à la réunion ? Je reste chez moi et puis je peux lire aussi. » Mais c'est solennel de penser que c'est une parole caractéristique de Laodicée que nous entendons là.
On peut dire qu'à Laodicée, il n'y a pas de cœur ni de conscience, mais une indifférence complète par rapport au Seigneur. Les affections sont attiédies. Le Seigneur préférerait à cet état-là un cœur de glace, parce que celui-là, il pourrait le faire fondre. Mais le cœur tiède, il ne peut rien en faire. L'état normal pour le Seigneur, c'est un cœur qui est bouillant. Pensons à ce psaume 45. Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai composé au sujet du roi. Voilà ce qui plaît au Seigneur. Que le Saint-Esprit compose dans nos cœurs une louange à l'adresse de celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, pas de cœur, pas de conscience. On est indifférent vis-à-vis du mal. Et le Seigneur est obligé de mettre en évidence cet état-là. C'est une preuve de sa grâce à l'égard de Laodicée. Le Seigneur dit toujours la vérité pour peu que l'oreille de notre cœur soit ouverte. Il met les choses à nu, à découvert. C'est le rôle que joue sa parole, miroir fidèle et non déformant de notre état. Si nous la lisons avec un cœur ouvert et sensible, eh bien la parole va nous révéler notre véritable état. Dieu, elle ne peut pas nous le cacher. Toutes choses sont nues et à découvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Et combien pourtant est pitoyable cet état. Tu ne connais pas, voilà, elle ne connaît pas son état. Tu ne connais pas, doit dire le Seigneur, que toi, tu es le malheureux et le misérable et pauvre et aveugle et nu. Et pourtant, il y a tant de prétentions. Prétentions à tout connaître, à tout savoir, à tout explorer. Il y a une autosuffisance qui nous humilie profondément parce que nous devons lire cette portion, cette lettre de l'Écriture. Le Seigneur a quelque chose à nous dire à chacun. C'est la bonne façon de lire l'Écriture que de nous dire, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui me concerne, moi, personnellement, ou qui peut concerner l'assemblée locale dans laquelle je me trouve. C'est ainsi que la parole nous réveille, nous sonde, nous fait avoir honte d'un tel état. Je suis riche, je me suis enrichi. C'est l'énergie de l'homme naturel, le vieil homme qui réapparaît avec ses prétentions là. Je n'ai besoin de rien. L'autosatisfaction. Seigneur doit découvrir cela. Et alors, en même temps, il y a le conseil de la sagesse qui est là et qui nous rappelle que le Seigneur n'est pas indifférent à l'état de la Odyssée. Il a encore quelque chose à lui dire. Cela nous fait penser à la nuée d'Ézéchiel qui quitte comme un regret le pays d'Israël avant que Dieu se retire de cette nation infidèle, idolâtre. Eh bien, il le fait comme un regret. Dieu épuise toujours les ressources de sa grâce avant d'exercer son jugement qui n'est pas son œuvre accoutumée. Mais ce temps de grâce, nous devrions aussi le saisir pour nous-mêmes et être réveillés, comme nous l'avons chanté à deux reprises dans la réunion précédente, dans nos affections, dans la délicatesse de notre conscience pour apprécier le bien et le mal. Apprécier le bien pour le rechercher, et c'est toujours en relation avec la volonté de Dieu que la parole de Dieu nous révèle, et fuir le mal avec la même énergie, tout ce que Dieu condamne. Et nous devons aussi être fidèles à cet égard, condamner tout ce que l'Écriture condamne en nous-mêmes, dans nos vies. C'est le jugement de toutes nos voies. Évidemment, ce qui est préventif à cela, c'est le jugement de nous-mêmes. Si nous réalisions mieux ce jugement de nous-mêmes, nous ne connaîtrions pas cet état qui est en dégoût au Seigneur. Il va vomir de sa bouche cette assemblée. Combien c'est solennel. Et pourtant, au départ, c'était une étoile. Il y a un ange encore auquel le Seigneur s'adresse. Il y a encore des oreilles dont le Seigneur attend qu'elles écoutent. Il y a l'Esprit de Dieu qui parle, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Cela est dit en chacune, pas au même endroit, soit avant la promesse, soit après. Et ce sont les individus qui sont concernés aussi dans cette expression. C'est vrai pour la promesse, c'est vrai aussi pour celui qui a des oreilles, afin qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Alors, le conseil du Seigneur, il peut nous toucher aussi à chacun. Je te conseille. Ah, quand nos cœurs ont été attiédis dans leurs affections pour le Seigneur n'a plus de commandement, pour ainsi dire, seulement le conseil de sa sagesse. Si tu voulais bien encore écouter, j'ai quelque chose à te conseiller. Eh bien, c'est que tu achètes de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche. Voilà les vraies richesses. Elles ont été évoquées à la lumière des expressions que nous avons dans les Colossiens. Ici, c'est la justice divine dont les saints sont revêtus devant Dieu par la foi en l'œuvre de Christ. La Odyssée fait état plutôt de sa propre justice. Dieu n'a rien à faire avec cela. Ce qui compte, c'est cette justice divine, cet or passé au feu, pour que cette assemblée connaisse les vraies richesses, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et nous l'avons vu avec Sardes, l'importance des vêtements blancs en tout temps. Être vêtu de vêtements blancs, ceci aussi nous fait toujours penser à la conduite, à la marche, à la sainteté pratique dans nos voies. Ceci n'existe plus à la Odyssée. On est indifférent à l'égard. Chacun peut faire au fond ce qui est bon à ses yeux. Cette expression deux fois répétée dans le livre des juges, où nous avons là aussi un état que l'Éternel est obligé de révéler à son peuple. Il lui parle de façon combien saisissante chaque fois qu'il tombe dans l'idolâtrie. Et il envoie des ennemis pour l'amener à crier à l'Éternel, et alors l'Éternel, dans ses compassions, envoie des juges pour le délivrer. Ici, c'est le conseil du Seigneur directement adressé à cette assemblée. La honte de ta nudité. Tu ne jouis pas de cette justice divine dont je t'ai revêtu, et la conséquence pratique, c'est que ta marche en est évidemment marquée. Toujours, le Seigneur part de la position pour ensuite aborder l'état pratique. C'est un principe que nous trouvons. vont à travers l'Écriture et en particulier dans l'économie de la grâce. Il est bon que nous jouissions de nos trésors, de tout ce que l'œuvre de Christ nous vaut quant à notre position, afin que nous soyons à la hauteur de notre vie pratique, et que notre état pratique soit davantage concordant avec notre position en Christ, qui, elle, est parfaite et dépend de l'œuvre de Christ. Et ensuite, le collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois cet aveugle qu'est Laodicée. Eh bien, il y a encore le conseil du Seigneur sur ce point, qui est tout à fait remarquable. Nous avons vu qu'il tient les sept esprits à Sardes dans sa main, et qu'il a les sept esprits, sept esprits de Dieu, et ici, eh bien, il n'y a plus l'action du Saint-Esprit pour le discernement. Et le Seigneur le ressent douloureusement, cela. À Laodicée, c'est une absence de discernement de ce qui convient au Seigneur. Puisqu'il y a une indifférence par rapport au Seigneur, il n'y a pas de discernement que donne toujours le Saint-Esprit quand il n'est pas attristé dans nos voies. Et alors, il y a encore l'amour du Seigneur qui vient s'ajouter à son conseil. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Nous retrouvons bien sûr l'enseignement qui est donné dans Hébreux 12 à propos de la discipline à laquelle nous sommes soumis. C'est une marque d'amour du Seigneur de nous discipliner. Ici, c'est ce que nous voyons. Et donc du zèle et repens-toi. Le Seigneur suppose encore qu'il y ait quelqu'un qui soit animé de zèle à Laodicée. Combien la grâce est touchante lorsqu'elle explore les limites jusqu'où elle peut aller. Et nous voyons par contraste, puisque le Seigneur ne peut rien approuver, il ne peut que donner des conseils, nous voyons par contraste tout ce qui lui plaît au fond. Et c'est en cela que cette lettre peut être une source d'édification. Il nous suffit de voir ce que le Seigneur signale comme le désapprouvant entièrement, et cela nous fait penser à ce qu'il peut approuver par contraste. Il est à la porte, dans l'attente de quelqu'un qui va se repentir. Cela ne peut que nous toucher et nous exercer aussi. Il suppose que quelqu'un puisse entendre sa voix, la voix du Seigneur. Que reconnaît la brebis? Elle n'a pas besoin, la brebis, de connaître toutes les voix des étrangers. Ce n'est pas la voix de son berger, eh bien, elle le fuit quand elle est en bon état, bien sûr. Il lui suffit de connaître la voix du berger, la voix du Seigneur aimé. Comment le Seigneur nous parle-t-il? Avant tout, par sa parole. Et si cette parole, nous la chérissons dans nos cœurs, si nous la méditons avec soin, eh bien, nous ne tarderons pas de connaître d'une façon familière cette voix douce et subtile de la grâce que le Seigneur désire faire retentir en chacun de nos cœurs. Que l'avertissement adressé par le Seigneur à Laodicée est un effet pour chacune de nos vies. Nous avons au fond une borne extrême là, dans laquelle le Seigneur, eh bien, ne peut rien relever qui le satisfasse. Et cependant, il use encore de grâce. Quelle patience que celle du Seigneur. Nous pouvons être confondus par sa manière d'agir à l'égard de ceux qui, un temps, étaient sans doute, comme nous le voyons à Laodicée, constituer une assemblée locale qui, à la lecture des Colossiens, avait quelque chose d'agréable au Seigneur. Mais nous pouvons déchoir de notre propre fermeté. C'est pourquoi nous avons besoin de ces poteaux indicateurs. C'est la grâce qui les place sur notre chemin pour nous avertir, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois que le Seigneur a vomi cette assemblée de sa bouche, eh bien c'est fini. La repentance, elle est liée à l'acceptation du conseil du Seigneur, de sa répréhension, de ses châtiments aussi quelquefois, qu'il est obligé de nous dispenser pour nous ramener à lui. N'oublions pas que le berger a deux instruments, la houlette et le bâton. Le bâton pour chasser ceux qui voudraient déchirer les brebis, et la houlette pour ramener la brebis près du berger. Elle a toujours tendance à s'égarer. Eh bien, Le bon berger prend soin de ses brebis, prend soin de son troupeau. Son assemblée, l'assemblée est chère au cœur de Christ. Qu'elle soit chère à chacun de nos cœurs.
Donc le Seigneur ici, au verset 19, discerne ceux qui lui appartiennent au milieu de cette église de Laodicée, mais qui sont encore identifiés avec la masse incrédule, qui va être jugée, elle. Et alors, donc, il va les discipliner, comme on vient de le dire, et il va les discipliner parce qu'il les aime, verset 19. Et nous avons donc ce passage des Proverbes 3, 12, qui est repris dans Hébreux 12, « Car celui que l'Éternel aime, il le discipline comme un père le fils auquel il prend plaisir. » Et on peut dire qu'un dernier appel est adressé à l'ensemble, un appel à la repentance.
L'absence de conscience, ou une conscience qui est complètement endurcie, cautérisée, disons-nous quelquefois, est la cause de cette indifférence, est la cause de ce manque d'engagement, est la cause aussi de cette neutralité. C'est aussi un terme que l'on peut employer à propos de cette Église. N'importe qui fait n'importe quoi, on est neutre, on ne prend pas parti, ni pour le Seigneur, ni même pour le bien, ni même contre le mal. La neutralité. Mais ceci a aussi des conséquences. Parce que quelqu'un qui est à la bataille, quelqu'un qui est allé à la bataille, quand David est allé devant Goliath, nous ne pouvons douter que quelque confiance qu'ait David dans l'appui que l'Éternel lui avait donné, nous ne pouvons douter qu'il était très près de l'Éternel. Nous ne pouvons douter qu'en quelque sorte, il réalisait bien que devant ce géant, il n'avait aucune force. Le fait d'être à la bataille nous rend conscient de notre faiblesse, nous rend conscient du besoin que nous avons des ressources du Seigneur. Donc, le fait d'aller à la bataille nous rend conscience aussi, nous fait prendre conscience des ressources du Seigneur, de ce qu'il y a en lui. Et cela nous rapproche de lui. Donc, en quelque sorte, nous pourrions dire, c'est presque un cercle qui se boucle sur lui-même. Je n'ai pas de cœur, je ne m'engage pas, je suis neutre, et résultat, je n'ai pas de ressources qui me ramènent vers le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur, dans sa grâce, offre une ressource. Et qu'est-ce qu'il demande, le Seigneur ? Il demande simplement qu'on lui ouvre la porte. Quand on a la vie, quand on n'a pas la vie, c'est autre chose, bien sûr. Mais pour ceux qui ont la vie, il leur demande qu'on lui ouvre la porte. Et comme on le dit quelquefois, il n'y a pas de poignée à l'extérieur. C'est pas le Seigneur qui forcera la porte. Nous le voyons bien dans ce passage. Il se présente, ce soir, il frappe peut-être à la porte de l'un ou l'autre des cœurs ici présents. Il frappe, nous l'avons entendu. Je me tiens à la porte et je frappe. Peut-être frappe-t-il à la porte d'un des cœurs, parce que c'est un état général d'une des sphères de la chrétienté, mais nous pouvons très bien nous trouver ici et être dans cet état-là. Quelqu'un peut très bien être dans l'état moral de la Odyssée, bien sûr. Le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Et il n'y a pas de poignée. Ne comptons pas sur lui pour qu'il force la porte. Il a les ressources de sa discipline, bien sûr, comme on l'a vu avant, mais il suffit de tourner la poignée et d'ouvrir. Et alors, quelle réponse merveilleuse ! J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il fait tout. Il n'y a pas de ressources. Il apporte le souper. Il n'y a pas de peut-être de feu. Il apporte tout ce qui est prêt et nous soupons avec lui. Il y a, malgré cet état si désespéré en apparence, de manière individuelle, la possibilité de trouver la communion avec le Seigneur. Quelle réponse de grâce, quelle merveilleuse grâce. On aurait attendu tout sauf ça, dans un tel état, je soupe avec lui. N'est-ce pas là l'expression de la communion ? Eh bien, dans un état si noir, dans un état si désespéré, il y a cette éclatante grâce de Dieu et de Christ qui est là, qui frappe. Insistant, il suffit d'ouvrir la porte, l'effort est mince, et il apporte tout, et il nous permet de trouver la communion avec lui. Donc dans des états de faiblesse dont nous pouvons souffrir, eh bien il y a cette réponse de grâce de notre Seigneur.
Il y a un exemple qui peut illustrer ce qui vient d'être dit. C'est celui que nous avons en Luc 24 à propos des disciples d'Emmaüs. Ils n'étaient pas sur un bon chemin. Ils étaient tristes, le Seigneur découvre cette tristesse et parle avec eux, réchauffe leur cœur, en leur présentant le Christ de toutes les Écritures. Et voilà qu'ils arrivent à Emmaüs, le Seigneur les accompagne sur un chemin dans lequel ils n'auraient pas dû se trouver. Mais ce n'est pas le Seigneur qui les invite là. Nous voyons que c'est eux qui le forcent à entrer. Combien l'Écriture est précise. Et nous voyons dans ce verset 29 qu'il est dit, « Ils le forcèrent disant, demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baissé. Et il entra pour rester avec eux. » Un verset que nous citons souvent, nous le savons bien, dans quelles circonstances, sans doute à juste titre, mais en fait, le Seigneur ne rentre que lorsqu'il est forcé à entrer. Par contre, quand l'état est très bon, un Zachée, eh bien, c'est le Seigneur qui s'invite dans Luc 19. Et là, eh bien, nous voyons toutes les nuances que la grâce apprécie parfaitement et dont nous devons tenir compte. Et bien sûr, leur cœur est réjoui quand il se révèle à eux. Et nous voyons d'ailleurs les conséquences de cœurs qui ont retrouvé le chemin de la bénédiction là. On pourrait dire que ce sont des Laodicéens, toute proportion gardée, qui se sont repentis et qui sont revenus sans que le Seigneur leur ait dit quoi que ce soit à Jérusalem qu'ils n'auraient pas dû quitter. L'Écriture nous confond dans ce merveilleux travail de la grâce. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a là quelque chose de très touchant quant à la communion individuelle et mutuelle aussi. Le Seigneur désire tout partager avec nous. Le souper, c'est toujours le symbole de la communion. Est-ce possible à la Odyssée que le Seigneur donne une telle issue? Oui, pour celui qui a la vie et qui a des oreilles pour entendre et peut encore jouir d'une telle grâce. Et il y a en conséquence la récompense pour le vainqueur, la promesse. Sans doute elle n'est pas aussi élevée que pour Philadelphie, mais c'est une part au royaume qui est annoncée. Moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais c'est une part aussi bénie dont jouira le vainqueur de la Odyssée. Tout est grâce, on peut le dire, dans les restaurations comme dans le salut d'une âme. Et le Seigneur ne manque pas de déceler dans les cœurs ces mouvements vers lui qui se produisent à l'écoute de sa voix, comme nous le disons quelquefois, qui est pleine de charme.
Le Seigneur vient frapper à la porte, mais en frappant à la porte, il se révèle, il montre qui il est. Tout le long de cette lettre, il y a d'un côté l'état de la Odyssée et de notre côté le Seigneur qui, dans la manière dont il agit, montre sa beauté. Et il donne des raisons, dans la manière dont il agit, d'avoir envie d'ouvrir la porte. Ça nous fait un peu penser à ce que nous avons dans le Cantique des Cantiques, quand le bien-aimé vient et frappe à la porte et sa bien-aimée est là, elle s'est installée, elle s'est endormie, elle ne l'attend plus et elle ne se lève pas pour ouvrir. Jusqu'au moment où il passe la main par le guichet et elle voit la main de son bien-aimé et il y a cette goutte de myrrhe qui tombe. Elle se souvient des souffrances de son bien-aimé, de son amour, et elle se lève pour ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'il nous montre? D'abord, sa vérité qui met à nu le mal. Il ne peut pas s'associer avec un mal non jugé, ce n'est pas possible. Puis, il nous montre aussi sa sagesse qui donne un conseil. Je te conseille d'acheter où, d'acheter à qui, d'acheter de moi, une transaction personnelle avec le Seigneur, dans une relation personnelle avec lui, venant chercher auprès de lui le remède. Et puis, il va reprendre, mais il va reprendre par amour, on l'a déjà souligné, il y a son amour qui agit. Et puis quand il se tient à la porte et il frappe, il y a sa grâce qui attend. Et quand il désire, il dit « j'entrerai chez lui et je souperai avec lui », il y a sa joie de se faire connaître. Toutes les raisons d'ouvrir la porte, toutes les raisons de répondre à son appel. Mais aussi pour le vainqueur. Pour le vainqueur, bien sûr, on l'a déjà dit, cette récompense est bien moins élevée que ce qu'il y a pour Philadelphie. Il n'y a pas la même intimité, mais quand même, il lui dit, je lui donnerai de s'asseoir avec moi, sur mon trône, assis avec lui sur son trône. Au départ, ils sont à table, l'un avec l'autre, dans la communion, assis à la même table, si on peut dire, pour être à la fin assis sur le même trône. Voilà ce qu'il prépare. Maintenant, il y a quand même aussi dans le livre des Proverbes un avertissement qu'il vaut peut-être la peine d'être lu. Parce que, voilà, on arrive à la fin de ces réunions. Peut-être que plusieurs d'entre nous sont un peu fatigués. Peut-être parmi ceux qui peut-être auraient besoin d'écouter davantage. Et dans le livre de Proverbes, au chapitre 1er, au verset 24, j'espère que c'est le cas, ce qu'on va lire n'est le cas de personne ici. Mais quand même, s'il y a des avertissements dans la parole de Dieu, il ne faut pas les négliger, puisque cette lettre à la Odyssée est quand même un avertissement qui nous est fait. Verset 24 du chapitre 1er. « Parce que j'ai crié que vous avez refusé d'écouter, parce que j'ai étendu ma main que personne n'a pris garde, et que vous avez rejeté tout mon conseil, je te conseille d'acheter de moi, que vous n'avez pas voulu de ma répréhension, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Moi aussi, je rirai lors de votre calamité. Il y aura le jugement. » Et plus loin, verset 29, « Parce qu'ils ont haï la connaissance, la vraie connaissance, se satisfaisant de leur propre connaissance, qu'ils n'ont point voulu et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Je n'ai besoin de rien, je suis à l'aise. » Et qu'ils n'ont point voulu de mon conseil, et qu'ils ont méprisé toute ma répréhension. Ils mangeront du fruit de leur voix, et seront rassasiés de leur propre conseil. Ils auront les conséquences de leur folie. Mais celui qui m'écoute, verset 33, habitera en sécurité, sera tranquille, sans crainte du mal. Et celui qui écoute, qui ouvre la porte dans la Odyssée, avec qui va-t-il habiter dans sa maison? Qui sait qui va rentrer? Avec qui va-t-il avoir communion? Qui sait qui va s'asseoir à sa table? Celui qui lui dit « j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi ». Quelle sécurité! Alors, qu'allons-nous faire? Alors, est-ce que nous allons écouter son conseil, sa répréhension? Est-ce que nous allons être attentifs à sa voix? Est-ce que nous allons nous repentir, avoir ce zèle pour se repentir et ouvrir la porte à celui qui veut entrer dans notre maison? Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, non pas simplement, et encore on insiste sur cela, non pas un appel général, mais un appel personnel. Et sachons-le bien quand même. Si d'un côté, le Seigneur nous a sauvés pour nous réunir, pour que nous réalisions ce qu'est l'Assemblée, notre marche, notre vie avec lui, notre communion, c'est avant tout notre communion personnelle avec lui, notre état de cœur personnel avec lui. Et c'est de cet état de cœur qu'il y aura une bénédiction ensemble.
et que nous réaliserons ensemble ce qu'il désire que nous réalisions, une vraie vie d'assemblée autour de lui et pour sa gloire.
Et il est extrêmement précieux qu'à la fin de toutes ces exhortations, elle se rappelle de ce qui attend le vainqueur. Le Seigneur se présente lui-même comme le vainqueur. Je veux dire que c'est bien là la conclusion de ces tableaux, cette Église, et aussi des exhortations que nous recevons à travers ce que nous avons pu considérer ensemble. Cette part avec lui, nous avons vu lui chez nous, si la porte lui est ouverte, nous chez lui, quand il recevra les vainqueurs, et il peut dire, moi j'ai vaincu, je suis le vainqueur, j'ai vaincu pour vous. Il a vaincu tous nos ennemis. Je veux dire aux disciples à la fin, tout à la fin, à la conclusion de ces adieux qu'il leur fait en Jean 16, verset 33. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Le monde est vaincu, vaincu par lui. Satan est vaincu, vaincu par lui. Hébreu 2 nous rappelle, n'est-ce pas, que par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Puis il a vaincu la mort elle-même. Il est sorti triomphant du tombeau. On peut dire qu'il a triomphé de tous ses ennemis et nos ennemis. Nos ennemis sont les siens, mais sont des ennemis vaincus. Et il a traversé les cieux, rien ne pouvant plus l'arrêter, pour aller s'asseoir avec son Père sur son trône, la place réservée au vainqueur. Le Père lui a dit, assieds-toi à ma droite. La position assise, c'est la position de repos. Preuve que toutes les victoires ont été remportées. S'il restait un seul ennemi à vaincre, le Seigneur n'aurait pu s'asseoir. Mais voilà, tous les ennemis sont vaincus, il occupe maintenant cette place du vainqueur, et il nous attend. Il nous fait veut nous faire partager cette place du vainqueur. C'est d'un prix immense, et combien c'est encourageant aussi pour nous. De voir là, dans cette position de victoire. Et quand nous sommes sollicités, nous avons affaire à des tentations, nous avons l'inimitié du monde, nous rencontrons l'ennemi de nos âmes qui cherche à nous faire tomber. Pensez à lui là-haut comme le vainqueur. Il a vaincu. Je puis être vainqueur par lui. Si on compare le verset que nous venons de citer, Jean 16, verset 33, avec ce que nous avons dans la première épître de Jean, c'est très beau. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et on voit par conséquent que la victoire, nous pouvons nous l'approprier par la foi. C'est le Seigneur qui l'a remportée, mais elle nous est attribuée dans la mesure où nous approprions cette victoire. Où la foi en lui peut dire, Seigneur, tu as vaincu mes ennemis. Satan n'a plus de droit sur moi, le monde n'a pas de droit sur moi. Et le croyant peut même dire, la mort n'a pas de droit sur moi. Elle ne pourra me retenir. Quand tu viendras, tu pourras, Seigneur, si j'ai à la traverser, m'en retirer par la résurrection. Nous chantons quelquefois, il vint et triompha de tous nos ennemis. Il les a par sa croix pour toujours asservis.
Et on peut dire que entre le moment où le Seigneur va quitter la chambre haute pour aller à Gethsémané, quoique il ne soit pas question du Gethsémané dans l'évangile selon Jean, au moment où il donne ses dernières paroles aux disciples, avant qu'il le laisse, et aussi avant qu'il y ait tout ce long pèlerinage de l'Église sur la terre, dernière parole, avant la prière de Jean 17, c'est « Moi, ayez bon courage ». Moi, j'ai vaincu le monde. dernières paroles à la fin de l'histoire de l'Église, alors que tout est décombre et ruine, moi j'ai vaincu. Toute cette histoire, toute cette longue histoire de l'Église responsable, est comme entre ces deux déclarations du Seigneur, « Ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde », et celle du verset 21, « J'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône ».
Est-il permis encore de parler à ceux qui ne sont pas en règle avec le Seigneur? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Que d'appels ont déjà retenti. Et nous pouvons dire à tous nos chers enfants, à nos jeunes gens, combien le Seigneur les a aimés et combien il les aime. Et il les aime tellement que, encore une fois, aujourd'hui, il se tient devant la porte de votre cœur. Et il désire y entrer. C'est à vous d'ouvrir la porte en l'acceptant comme sauveur. Le Seigneur passe encore pour longtemps, nous ne le savons pas, mais bientôt il sera dit, ça nous a occupé, le réveil qui a eu lieu, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Peut-être aujourd'hui la voix de l'époux va se faire entendre. Et alors on dira, non plus le Seigneur va venir, mais on dira, le Seigneur est venu. Un appel encore. Pour vous dire combien le temps que nous vivons est solennel, tout nous montre que le Seigneur est proche. Bientôt, tous ceux qui sont ici, ou presque, et nous souhaitons que ce soit en réalité, tous, ils connaîtront l'enlèvement. Nous avons connu un cher frère, et il est toujours heureux, puisqu'il a dit que la mémoire de Dieu, c'est en bénédiction. Notre cher frère Maurice Capel pouvait dire que tous ceux qui ont entendu le message de la grâce et qui resteront sur la terre s'uniront ensemble et peut-être jamais une réunion de prière aussi fervente ne montera vers le ciel qui sera fermé. Ils se trouveront à ce temps-là, non pas devant un sauveur qui passe et qui frappe à la porte, mais ils se trouveront en ce temps-là devant une porte fermée et fermée pour toujours. Et un jugement sans appel sera leur part. Et dans l'éternité, chers amis, et nos cœurs se serrent en parlant de cette façon. Dans l'éternité, vous vous souviendrez que le Seigneur s'est tenu devant votre porte à plusieurs occasions. Il a frappé, il vous a parlé, vous avez été remué dans vos consciences, vous avez peut-être remis à plus tard encore, et vous vous trouveriez dans cet instant où il serait dit « il est trop tard ». Que le Seigneur opère dans vos cœurs, chers amis, pour la plus grande joie de ceux qui sont en souci pour vous, la plus grande joie de vos parents, de ceux qui prient avec un sens et dont les prières montent vers le ciel, et le Seigneur qui est encore passé aujourd'hui et peut-être pour la dernière fois.
Il y a aussi une pensée encourageante dans cette expression du verset 20. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Parce que nous avons là comme une anticipation du grand souper céleste du royaume. Et c'est un souper. Et cela aussi nous fait penser, bien sûr, au fait que le Seigneur avait désiré réunir les siens pour un souper. En Matthieu 26, il est bien spécifié, et en Marc aussi, verset 20, « Et le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. » Et c'est à ce moment-là, au moment où il a pris la Pâque avec ses disciples, comme on le voit en Luc 22, où la chronologie est bien notée, c'est à ce moment-là que le Seigneur a pu dire, en prenant une découpe de la Pâque, verset 29, « Je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il y a là pour nous tous une grande douceur dans le fait que quand le Seigneur nous rassemble à sa table, comme il l'a fait autrefois avec les 12, Nous pouvons penser aussi à ce moment où nous pourrons boire avec lui de ce fruit de la vigne, c'est-à-dire jouir de la joie toute nouvelle qui sera la nôtre avec lui dans le royaume de son Père, c'est-à-dire dans la partie céleste du royaume à laquelle nous appartenons déjà. Le Seigneur nous encourage, et ce souper ici évoque aussi cet aspect-là. Et bien sûr, il est aussi une invitation pressante pour ceux qui ne se sont pas encore approchés de la table du Seigneur, de le faire pour répondre au désir de son cœur, pour prendre la scène, le mémorial, à sa table. Et c'est ainsi que nous avons, en Luc 22, nous avons ces épisodes qui sont rappelés, n'est-ce pas, du verset 14 au verset 20, où l'on voit d'abord du verset 14 au verset 18, n'est-ce pas, la Pâque qu'il prend avec ses disciples, puis ensuite du verset 19 au verset 20, la scène qu'il institue, repas tout nouveau, souper tout nouveau, pourrions-nous dire, et auquel il nous convie chacun, si nous avons cru en lui, si nous l'appartenons en propre, si nous sommes un membre du corps de Christ.
Entre le chapitre 2 du livre des Actes, où, après la Pentecôte, l'Assemblée a commencé son histoire, où nous voyons au verset 42 quel était l'état de cette assemblée. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Toute âme avait de la crainte. Beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres et tous les croyants étaient en un même lieu. Il y avait toutes choses communes. Et plus loin, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Un départ qui avait commencé au moment où le Saint-Esprit est entré dans la chambre où étaient les disciples, un départ merveilleux, une course pleine de lumière, quelque chose tellement béni par le Seigneur, un zèle, un amour qui se manifestait de toute manière, un amour pour le Seigneur, un amour pour la parole, une persévérance, un souvenir du Seigneur, persévérant dans la fraction du pain, et le Seigneur qui bénit. Et nous arrivons aux dernières lignes que nous venons voir dans la Odyssée. Que s'est-il passé entre les deux? Quelle a été l'histoire de l'Église professante sur la terre? Et nous avons lu dans ces dernières années un peu dans ce tableau de ces deux chapitres. À Éphèse, ils ont continué sur la lancée. Il y avait une grande orthodoxie, beaucoup d'œuvres, des choses que le Seigneur reconnaît, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et dans sa grâce, le Seigneur a envoyé des persécutions à Smyrne pour le ramener. Mais voilà que l'Église s'est installée dans le monde, et nous avions Pergame. Et l'Église s'est mise à régner sur le monde, et nous avions Thyatire. Et la tradition s'est installée, les fausses doctrines se sont incrustées, et il y a eu la femme Jézabel. Et puis, sortant de Thyatire, il y a eu ce réveil, le protestantisme, plutôt la réformation qui s'est faite, et la conséquence, très rapidement, le protestantisme, tu as le nom de vivre et tu es mort. Une apparence, un formalisme, quelque chose d'extérieur, une apparence et la mort au fond. Ce réveil de Philadelphie dont nous nous sommes occupés ces jours. Et la Odyssée, dernier état de l'Église, responsable sur la terre, à qui le Seigneur est obligé de dire « Je vais te vomir de ma bouche ». Alors, dans tout cela, il ne rétablit pas ce qu'il y a dans Acte 2. Mais alors, est-ce que c'est désespérant? Est-ce qu'il faut se décourager? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Est-ce qu'il faut dire à quoi bon? Puisque ça va vers l'échec. Mais non. Nous avons lu dans tous ces chapitres à celui qui vaincra, avec la récompense que le Seigneur a préparée pour celui qui vaincra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il attend des vainqueurs, et ça veut dire qu'il y aura des vainqueurs. Et quand nous avons lu tous ces chapitres, qu'est-ce que nous désirons? Qu'y a-t-il dans notre cœur? Allons-nous répondre à ce que le Seigneur attend? Serons-nous de ceux vers qui il s'avancera pour lui donner ce qu'il a préparé, la récompense qu'il désirait lui donner? Serons-nous les uns et les autres, du plus jeune au plus âgé, un de ceux à qui le Seigneur peut dire « celui qui vaincra » parce qu'il s'attend vraiment à ce que nous soyons des vainqueurs.
Réflexion sur à ce sujet, à savoir que cela pose un peu la question de savoir à quoi peut-on reconnaître qu'un témoignage porte les caractères philadelphiens. Il n'y a pas de liste de critères, n'est-ce pas? Il n'y a pas de liste de critères dans la parole. Dieu n'agit jamais ainsi d'ailleurs. Il n'agit jamais en donnant une liste de critères. Mais parmi les questions que l'on peut se poser, une des questions fondamentales est celle-ci: est-ce que dans la façon dont l'Église se conduit, dont le rassemblement se conduit, est-ce que dans la façon dont les fidèles se conduisent, est-ce que la parole de Dieu est la, comment pourrait-on dire, le guide, le soutien infaillible, permanent et unique de la conduite? Et c'est ainsi, être le soutien de la vérité. La vérité de Dieu n'a pas besoin de l'Église pour la soutenir, dans un sens. Par contre, si l'Église est une illustration de ce que la parole vivante et opérante doit être dans les saints, alors, en voyant ces croyants qui éclairent, qui illustrent, qui, en quelque sorte, manifestent ce qu'est la parole de Dieu, on dira, mais leur vie est une illustration de ce qu'est la parole, avec cette stabilité, avec toute cette rectitude que donne la parole de Dieu dans la vie d'un homme, avec tout ce changement qu'elle peut introduire. Elle est vivante et elle est opérante. Voilà un des caractères auxquels, une des questions que l'on peut se poser au sujet d'un témoignage philadelphien. D'ailleurs, quand une assemblée doit être créée, question qui peut se... Enfin, un rassemblement local doit être créé, question, et une table du Seigneur dressée, question qui peut se poser de temps à autre. Heureusement, le Seigneur ajoute encore, dans sa grâce, et nous en avons eu en France il n'y a pas très longtemps, dans le Sud-Ouest, eh bien, une des questions que l'on se pose, est-ce qu'effectivement, dans la connaissance de la vérité, dans la façon de l'exposer, dans la façon de la vivre, dans la façon de se conduire, est-ce qu'effectivement, cette assemblée, ce rassemblement local sera une colonne de la vérité? C'est-à-dire, on pourra dire, voilà ce que la vérité commande et demande.
Un autre point que l'on peut aussi rappeler, c'est ce qui nous est donné en 1 Corinthiens 14. Une âme qui entre dans l'assemblée, maison de Dieu, colonne et soutien de la vérité, eh bien, elle reconnaît immédiatement, étant touchée dans les secrets de son cœur, que Dieu est véritablement parmi nous. Voilà quelque chose aussi qui est, disons, une indication pour manifester que la vérité est proclamée. Dieu est là par son esprit, et ceux qui entrent sont touchés par la présence de Dieu. C'est quelque chose de très précieux aussi.
Gloire à Jésus. Jésus.